Sophie, il est 1h à Paris, 23h en temps universel.
Arthur Ponchelet.
À la une de ce lundi 1er juillet, le Rassemblement National, largement en tête du premier tour des élections législatives en France. Le parti d'extrême droite appelle désormais les Français à lui donner une majorité absolue pour gouverner. À gauche et au centre, c'est le retour du Front Républicain. Le président Emmanuel Macron a appelé tout à l'heure un rassemblement clairement démocrate et républicain. La gauche annonce, elle, le désistement de ses candidats arrivés troisième pour éviter une majorité d'extrême droite. Dans ce journal également, nous irons à Gaza où les bombardements israéliens se poursuivent. Les civils fuient toujours la zone par milliers. Et puis direction les Caraïbes, l'ouragan Beryl, le premier de la saison, doit atteindre la région dans les prochaines heures. Le Rassemblement National domine le premier tour des élections législatives en France. Le parti d'extrême droite est crédité de 33,2% des voix selon des résultats partiels. La gauche est en deuxième position à plus de 28% et la majorité présidentielle, elle, pointe à 21% seulement. Juste après l'annonce des résultats, la chef du Rassemblement National, Marine Le Pen, s'est exprimée et elle appelle les Français à donner une majorité absolue à son parti pour gouverner. Écoutez.
En démocratie, rien n'est plus normal et sain que l'alternance politique. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Sans majorité claire, il se trouvera toujours quelques féodalités anciennes, des inerties programmées et de basses manœuvres pour faire échec à la vraie alternance dont le pays a urgemment besoin.
Marine Le Pen, qui a aussi annoncé sa réélection dès le premier tour dans sa circonscription du Pas-de-Calais. C'est le cas également pour l'insoumise Mathilde Panot dans le Val-de-Marne ou encore pour le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Lui était candidat en Seine-et-Marne. De son côté, Gabriel Attal est arrivé en tête de sa circonscription des Hauts-de-Seine, près de Paris. Le Premier ministre qui appelle à faire barrage au Rassemblement National. Une soixantaine de candidats du parti présidentiel vont ainsi se retirer au second tour. Même chose à gauche, où les membres du nouveau Front Populaire ont annoncé que leurs candidats, arrivés troisième, se retireront en cas de triangulaire. C'est ce qu'a déclaré le chef historique de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Il s'agit de voter pour un autre futur. Pour le second tour, le nouveau Front Populaire est présent en duel dans la plupart des cas, le plus souvent face au RN. Il est alors possible de voter directement pour nous donner une majorité absolue. Dans un certain nombre de cas, des triangulaires sont possibles. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature.
Et ce soir, notez également la suspension de la réforme controversée de l'assurance chômage par Gabriel Attal. L'entourage du Premier ministre évoque le premier acte dans l'esprit de future majorité et de projet d'idées. Les principaux résultats et les analyses de ce premier tour des élections législatives en France, c'est évidemment à suivre sur notre site internet www.rfi.fr. Autre scrutin que l'on suit sur RFI, la Mauritanie est toujours dans l'attente des résultat définitif de l'élection présidentielle qui a eu lieu hier. Selon la Commission électorale nationale indépendante, le dépouillement est quasiment fini et les résultats provisoires donnent le président sortant Razouani largement en tête. Vient ensuite son principal opposant, lui qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats officiels. Il accuse la CENI d'être instrumentalisée par le pouvoir et d'avoir commis des fraudes. Pas de répit pour les civils palestiniens à Gaza. L'armée israélienne bombarde sans relâche le nord de l'enclave sous blocus et poursuit depuis plusieurs jours des combats acharnés au sol, notamment dans le quartier de Shujaïa, à l'est de la ville de Gaza. Au quatrième jour, l'invasion s'intensifie et les civils palestiniens encerclés décrivent des situations catastrophiques. À Jérusalem, correspondance d'Alice Froussard.
Dès jeudi, les habitants du quartier de Shujaya avaient été appelés à évacuer. C'était la panique. Des scènes de terreur racontent des familles de Gazaouis qui ne savaient pas où aller. Et depuis quatre jours, certains se disent pris au piège. Beaucoup, à cause des bombardements et des tirs incessants, n'ont pas pu évacuer. Les témoignages des habitants et des journalistes sur place font état de bulldozers, de chars israéliens qui tirent sur des zones résidentielles. La nourriture manque, il n'y a plus rien et les blessés nombreux sont en incapacité d'être évacués, les ambulances ne pouvant pas atteindre la zone. De son côté, l'armée israélienne a déclaré avoir tué plusieurs combattants palestiniens, localisé des armes et frappé des infrastructures militaires au cours de la journée. Elle a aussi annoncé la mort de deux soldats israéliens dans le nord de la bande de Gaza. Quant au Hamas et au djihad islamique palestinien, ils affirment que leurs combattants ont tiré des roquettes anti-chars et des tirs de mortier contre les forces israéliennes dans ces zones. Alice Froussard, Jérusalem RFI.
Ouverture de la troisième conférence internationale sur l'Afghanistan ce dimanche. Rendez-vous organisé par les Nations Unies et c'est une première, les talibans doivent y participer. Objectif, ouvrir un dialogue politique, mais pas avec tout le monde. La société civile, particulièrement les organisations défendant les femmes afghanes, est absente de cette conférence. En Europe, des intempéries frappent la France, la Suisse, l'Italie et l'Allemagne depuis plusieurs jours. Des pluies torrentielles, des orages et de violentes tempêtes ont fait plusieurs victimes. Trois morts ce samedi dans le nord-est de la France, écrasés par un arbre à bord de leur voiture. Quatre morts également en Suisse, dans un glissement de terrain. On change de continent, mais on continue de parler des intempéries, direction les Caraïbes, où le premier ouragan de la saison s'apprête à déferler. Beryl, c'est son nom, produit des vents qui atteignent déjà près de 200 km/h et il devrait encore se renforcer. Le précurseur Simon Rosé d'une saison des ouragans qui s'annonce d'ores et déjà record.
Beryl se trouve au large des Petites Antilles. Il est passé de tempête tropicale à ouragan dans la nuit de samedi à dimanche, avant d'être reclassé en ouragan majeur à mesure qu'il s'est renforcé. Des rafales d'au moins 180 km/h sont attendues. C'est le premier et il arrive bientôt dans la saison. C'est un phénomène rare qui s'explique notamment par les températures anormalement élevées de l'Atlantique Nord. Beryl lance ainsi une saison des ouragans qui s'annonce record. Tous les ingrédients sont réunis. Eau chaude donc et une transition entre les phénomènes El Niño qui est en train de s'achever et la survenue de son pendant, la Niña, dans les mois qui viennent. Les experts anticipent ainsi cette année plus d'une trentaine d'ouragans sur l'Atlantique Nord, dont une petite dizaine qualifiée de majeure. C'est deux fois plus que la moyenne. Beryl, lui, devrait atteindre les îles du vent dans la nuit de dimanche à lundi. La Martinique, la Barbade, Trinité et Tobago, entre autres, qui se préparent à affronter des vents potentiellement mortels, selon le Centre national américain des ouragans, et des vagues de plusieurs mètres de haut.
Allez, on ouvre une page de sport pour finir ce journal. Avec d'abord la fin du rêve olympique pour le perchiste français Renaud Lavillény. L'ancien recordman du monde de la spécialité a échoué dans sa quête des minima. Il lui restait une dernière chance ce dimanche à Angers où se tenaient les championnats de France d'athlétisme. Une page se tourne donc pour le champion olympique de 2012 et vice-champion olympique de 2016. Même si à 37 ans, il ne veut pas entendre parler de retraite sportive et accepte la situation.
C'est difficile, forcément, parce que ça méritait plus. Je sais d'où j'arrive. Hein. J'ai fait il y a 9 mois, j'étais à Paris sur le lit d'hôpital avec en train de me faire charcuter l'ischio. Personne me voyait revenir, défendre mes chances, etc. C'est frustrant, je dirais, de s'arrêter au pied de la dernière marche. Maintenant, pour moi, il n'y a même plus de quoi se dire JO, Paris ou quoi. Maintenant, c'est bon, c'est fini, la page elle est tournée. Donc ça fait partie du jeu. Et puis c'est comme ça, faut avancer, quoi.
Le perchiste Renaud Lavillény au micro de Frédéric Suteau. Pas de Renaud Lavillény, donc au JO, la perche sera représentée par Thibaut Collet, champion de France, dimanche avec 5,82 m. En football, nouvelle journée de 8e de finale de l'Euro, direction les quarts de finale pour l'Espagne qui a battu la Géorgie 4-1. Les Espagnols affronteront l'Allemagne en quart de finale. Un peu plus tôt, l'Angleterre a elle éliminé la Slovaquie 2-1. Les Anglais miraculés, qualifiés pour les quarts de finale au bout du suspense, avec 2 buts marqués dans les prolongations. Prochain match de l'Euro de football, c'est aujourd'hui. La France affronte la Belgique à 16h, temps universel. C'est la fin de ce journal. Il est 1h passé 10 minutes ici à Paris.